Alors, je lis dans Luc 18, 18 à 27. C'est l'histoire du jeune homme riche. Un chef interrogea Jésus et dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu.
Et un peu plus loin, au chapitre 19, toujours dans le Luc, à partir du verset 1, après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, excusez-moi.
C'est le 6.
Dépêche-toi de descendre, Zachée. Car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison, parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Bonjour à chacun, à chacune. Dimanche passé, le culte inter-église organisé par le réseau évangélique à la paroisse, enfin à la salle des fêtes de Thonay, clôturait cette semaine de prière universelle de l'Alliance évangélique, comme Alexandre nous l'a dit en début. Et c'est vrai que durant toute cette semaine consacrée à des rencontres de prière, le thème était « Par la foi ». Par la foi, nous pouvons plaire à Dieu. Par la foi, nous agissons avec courage. Par la foi, l'impossible devient possible. C'était le thème de mercredi soir où j'ai apporté une méditation sur ce texte tiré de Hébreux 11. Et c'est un thème que j'aimerais reprendre avec vous ce matin, tellement pour moi il me semble important. Par la foi, L'impossible devient possible. C'est la promesse que Jésus lui-même a faite à ses disciples lorsqu'il le dit, hein, ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Voilà une parole extraordinaire, hein, qui nous ouvre des perspectives fantastiques. Tout est possible à celui qui croit, dira encore Jésus dans l'évangile de Marc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour un peu, on pourrait s'enthousiasmer à l'idée que le mot « impossible » ait été rayé du vocabulaire des chrétiens par notre Seigneur. Génial, ça. Mais c'est vrai que si on acquiesce, hein, facilement à la logique de cette affirmation, oui, ce qui est impossible aux hommes, créatures limitées, est possible au Dieu Tout-Puissant, ça, on veut bien le croire. Force, je crois, est de constater que dans notre vie de foi, on n'est pas souvent à la hauteur d'une telle espérance. Nous connaissons tous des difficultés, voire des échecs, plus facilement et plus souvent que des victoires. Alors faut-il laisser de côté une telle parole pour tout simplement faire de notre mieux? Ou devrions-nous peut-être, comme certains croyants, nous concentrer sur la première partie de cette proposition, hein, par la foi? L'impossible devient possible. Si je vis des défaites, c'est donc qu'il me manque de la foi. Jésus n'a d'ailleurs-t-il pas lui-même fustigé à plusieurs occasions ses disciples à cause de leur petite foi. Et selon ce point de vue, il faudrait alors que nous ayons plus de foi. Il faudrait que nous croyions davantage. Il faudrait nous efforcer d'avoir une plus grande confiance en Dieu. Oui, c'est bien, mais si on n'y arrive pas, alors là, difficile de ne pas se culpabiliser, hein, difficile de ne pas perdre espoir. Or, c'est justement tout le contraire de ce que Jésus veut, tout le contraire de ce qu'il cherche à faire avec nous, comme j'aimerais vous le montrer ce matin. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. La première chose que j'aimerais dire, c'est heureusement. Heureusement que nous avons une telle promesse dans les Écritures. Parce que je crois que nous ne pouvons pas tout simplement nous contenter de faire au mieux, de faire de notre mieux, tout simplement parce que Dieu nous demande justement l'impossible. Dieu nous demande l'impossible. Vous ne me croyez pas? Pourtant, selon l'Écriture, la volonté de Dieu pour nous n'est-elle pas que nous aimions nos ennemis et que nous leur pardonnions? Dieu n'attend-il pas de nous que nous gardions un cœur pur dans un monde de tentation, un cœur honnête dans un monde de magouilles? Ne sommes-nous pas appelés à demeurer et à rester fidèles à notre conjoint pour la vie et à retrouver l'amour pour lui lorsque parfois il s'est perdu? Et j'en passe. Et tout cela ne vous sera jamais-t-il semblé irréaliste, voire impraticable? Ah, moi je crois bien que une fois ou l'autre dans notre vie, nous faisons l'expérience avec Dieu qu'il nous demande l'impossible. Et pour tout vous dire, je le soupçonne même qu'il fait exprès de nous demander l'impossible. Ah, voyez cette histoire du jeune homme riche que nous venons de lire. C'était un notable, un jeune chef qui vient vers Jésus, hein, qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Alors Jésus lui répond, applique les commandements, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Vous remarquerez ici que Jésus cite les commandements 5 à 9, les tables de la loi. Des commandements qui concernent tout particulièrement la façon dont nous nous comportons avec les autres. Or ces commandements concerne des actes observables. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ce qui facilite leur mise en pratique, on le voit, on ne le voit pas. On le voit. Et ceci peut expliquer l'assurance du jeune homme lorsqu'il répond avec Jésus. Tout cela, je l'ai appliqué, lui dira-t-il, et sans doute avec sincérité. Pourtant, il semble se rendre compte, ce brave jeune homme, que cela ne suffit pas. Je pense que sa conscience n'est pas en paix. Et peut-être que le fait que Jésus ait omis de citer le 10e commandement participe à ce trouble. Tu ne convoiteras pas ce 10e commandement. Un commandement qui renvoie cette fois-ci non plus à un acte observable, mais à ce qui se passe dans le cœur, ce qui est moins visible. « Que me manque-t-il encore ?» lui demandera-t-il. Et vous connaissez la réponse de Jésus, « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Et là, tout d'un coup, Jésus semble exiger quelque chose d'impossible pour ce jeune homme, parce qu'il s'en va tout triste, car, nous dit l'Évangile, il était très riche. L'invitation de Jésus a mis en lumière, en effet, le fait que ce jeune homme était esclave dans son cœur de ses biens. Mais ce qui peut nous surprendre le plus, je trouve, c'est, en poursuivant notre lecture, hein, comme on l'a fait quelques versets plus loin, c'est de voir que Jésus n'aura pas du tout les mêmes exigences à l'égard des autres, à l'égard d'un autre homme, pourtant lui aussi riche et influent. En effet, poursuivant son chemin avec ses disciples, Jésus entrera dans Jéricho et y fera une rencontre, celle d'un homme, Zachée. Nous l'avons lu, Zachée était chef, lui aussi, chef des péagers, et donc un homme riche. Et pourtant, Jésus ne va rien exiger concernant ses biens. C'est même plutôt Zachée qui va de lui-même faire une proposition à Jésus alors qu'il s'apprête à le recevoir dans sa maison. « Maître, je veux donner la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent, je veux lui rendre 4 fois plus. » Vous avez remarqué, Jésus ne va pas demander à Zachée, il va d'ailleurs être tout à fait heureux de cette réponse, hein, mais Jésus ne va pas demander à Zachée qu'il donne tous ses biens. Zachée donnait la moitié, comme Jésus l'avait exigé de ce jeune homme riche. Et pourtant, Zachée recevra exactement ce que le jeune homme riche était venu chercher. Le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Aujourd'hui, dira Jésus, le salut est entré dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Alors pourquoi une telle différence de traitement? Bien, je crois que c'est parce que ce jeune homme riche regardait à lui-même. Il avait les yeux fixés sur ses propres capacités. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus l'a mis au pied du mur. Jésus l'a mis au pied du mur en lui posant une exigence qu'il était incapable à laquelle, pardon, il était incapable de répondre. Et pourquoi cela? Eh bien, pour le pousser à chercher le secours divin. Pour le pousser à regarder non pas à l'œuvre de ses mains, à l'œuvre humaine, mais pour regarder à l'œuvre de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il existe une sphère, un lieu où l'impossible devient possible, c'est la sphère de la grâce et de la toute-puissance de Dieu. Et Jésus cherche à élever nos regards, justement, de l'œuvre humaine à laquelle ce jeune homme riche était fixé, à l'œuvre divine, dans cette sphère de la grâce et de la toute-puissance de Dieu. Voilà ce que Jésus a cherché à faire avec ce jeune homme. Avec Zachée, on était dans une toute autre situation. Zachée regardait déjà au-delà de lui-même. Zachée ne se préoccupait pas de lui. Il n'avait qu'une seule soif dans son cœur, celui de voir et de rencontrer Jésus. De sorte qu'il n'a pas hésité à grimper, nous dit le texte, dans un arbre à cause de sa petite taille, pour voir passer le cortège, et cela sans se soucier le moins du monde, du ridicule de la scène et du qu'en dira-t-on des gens. C'était un homme influent. Un homme très riche, ne l'oublions pas. Et pourtant, il était libre. Libre de monter sur cet arbre pour regarder, voir passer Jésus. Il était libre, Zachée. Aussi, Jésus exauça-t-il son souhait au-delà de ses attentes. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Et Zachée, nous dit le texte, hein, reçut Jésus avec joie. Une joie qui va déboucher sur un acte de repentance et de grande générosité. Quel contraste, n'est-ce pas, entre cette joie de Zachée et la tristesse du jeune homme riche qui s'en est allé. Et je crois que l'histoire de Zachée sonne véritablement comme la démonstration de la promesse de Jésus faite à ses disciples. Oui, avec Zachée, Jésus montrera que l'impossible peut devenir possible. La toute-puissance de Dieu peut, par l'œuvre de l'Esprit, incliner le cœur même du plus riche, même du plus malhonnête des hommes, l'incliner à chercher le trésor qui est dans le ciel, au travers de Zachée. Quel encouragement! Quel encouragement pour ses disciples qui, lorsque le jeune homme riche était parti, se posaient la question, mais qui peut être sauvé? Zachée est sauvé. Je crois donc que dans sa grâce, oui, le Seigneur nous conduit parfois au pied du mur, nous conduit parfois à être face à l'impossible, nous obligeons à affronter nos résistances, nos peurs, nous mettons devant l'impossible, mais pour mettre en lumière cette part d'incrédulité qui se tapit au fond de notre cœur, et ce, pour l'arracher. Parce que l'incrédulité est chevillée à l'âme du corps, pardon, à l'âme humaine. Depuis la chute, l'humanité est une race incrédule et perverse, dit l'Écriture. Une race qui met en doute la parole de Dieu, qui met en doute son amour pour ses enfants. Mais l'incrédulité ne provient pas de la difficulté de croire ou de la difficulté de résoudre toute une foule de problèmes intellectuels. Son origine, ne nous trompons pas, l'origine de l'incrédulité est dans le choix délibéré de l'homme de demeurer indépendant, indépendant à l'égard de Dieu, de ne pas quitter son péché ou sa propre justice. Oui, l'incrédulité, c'est ne pas vouloir. Après avoir donné aux Juifs toutes les preuves désirables de sa divinité, de son amour, Jésus leur dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants et vous ne l'avez pas voulu ? L'incrédulité, c'est ne pas vouloir. Mais heureusement, heureusement pour nous, comme nous le montrent encore ces textes, Dieu connaît la faiblesse et l'incapacité de notre nature et il désire ardemment nous aider. Aider ceux qui lui apportent leurs doutes, leur manque de foi. Souvenez-vous à Pierre qui s'enfonce dans l'eau et appelle au secours. Jésus va tendre la main en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et il l'a sauvé. À Thomas qui s'écrie « Si je ne vois, je ne croirai point. » Le Seigneur répond « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Mais en même temps, il lui donne de toucher ses mains, de mettre ses mains à son flanc pour le convaincre de la réalité de sa résurrection. Oui, Jésus aime à s'entendre dire « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Le Seigneur révèle notre incrédulité. Il la met en lumière non pas pour nous repousser, pour nous juger, mais pour nous aider. Le jeune homme riche est parti de lui-même alors qu'il aurait pu trouver du secours auprès de Jésus. Le Christ veut nous aider à accueillir la volonté de Dieu, nous aider à nous mettre au diapason de cette volonté. Le Christ veut nous aider à accueillir ce qui, parfois ou peut-être, est la folie de Dieu aux yeux des hommes. Il veut nous aider à accueillir l'impossible de Dieu au cœur de nos vies. Hébreux 11, dont il a été fait mention tout à l'heure, c'était le texte de la semaine de prière. Hébreux 11 fait, entre autres, l'éloge d'Abraham et de Sarah pour leur foi dans les promesses. Excusez-moi. Pour leur foi dans les promesses de Dieu. Or, je crois que le Seigneur veut faire de chacun de nous ici des Abraham et des Sarah. C'est-à-dire non pas des gens qui n'ont jamais douté, qui n'ont jamais reculé. Souvenez-vous, dans son incrédulité, Sarah a ri des paroles de l'Éternel qui lui a annoncé la naissance d'un enfant alors qu'ils étaient dans la 90e et 100e année. et qu'elle était encore stérile. Mais Dieu veut faire de nous des Abraham et des Sarah, dans le sens des hommes et des femmes qui reconnaissent leurs faiblesses, leurs limites et leurs besoins du secours de Dieu, et qui sont alors capables d'entrer dans le projet de Dieu avec foi, parce qu'ils tiennent pour fidèle celui qui a fait ses promesses. L'Éternel a repris Sarah et il l'a mis au défi de croire. Et avec humilité, le texte nous le dit, Sarah a repris le chemin du lit de son mari, pour que le nécessaire soit fait. Oui, par la foi, l'impossible devient possible. Cette promesse de réussite et d'exaucement n'est pas là pour nous faire fantasmer et pour nous encourager à demander à Dieu tout ce qui nous passe par la tête. Non, bien au contraire, elle est là pour nous encourager à discerner la volonté de Dieu et à la faire nôtre, pour nous encourager à coopérer avec le projet bienveillant de Dieu. Et comme je le disais lors de cette soirée de prière, comment faire cela si ce n'est justement au travers de la prière et du dialogue intérieur avec Dieu? Alors, je vous invite ce matin à prier, prions. Prions pour chercher la face de Dieu et comprendre quelle est sa volonté pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, nos jeunes, pour nos communautés, pour le monde. Prions pour lui offrir nos résistances, nos peurs, notre incrédulité. Louons-le parce qu'il ne nous repousse pas, parce qu'il ne rejette pas celui qui doute, mais regardons à lui pour ce qui nous semble impossible aujourd'hui dans notre vie et demandons-lui de renouveler notre foi, notre confiance en ses promesses. Oui, prions pour que Dieu nous conduise du doute à l'émerveillement. Que notre Seigneur nous accorde sa grâce et sa lumière. Amen.